Alors, au Japon, il y a une véritable vénération par rapport aux chouettes et hiboux, ça c'est sûr.
Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Interview de Photographe Nature. Je suis Régis Moscardini, fondateur du site auxonature.com, formateur en photo nature et coach business pour tous les passionnés de photos qui veulent tirer un revenu de leurs compétences photo. Je suis ravi de vous retrouver dans la série des Live Duo, ces interviews que j'ai faites en direct sur mon compte Instagram pendant le confinement entre mars et avril 2020. J'y ai reçu le photographe Philippe Ricordel du compte Phil Ricordel, je vous mets le lien en description. J'avais rencontré Philippe au Salon de la Photo à Paris il y a quelques années et j'avais adoré discuter avec lui. On a donc remis ça, cette fois-ci de manière plus officielle, au cours d'une interview. On a parlé évidemment de nombreux sujets photos, notamment de ses voyages et plus particulièrement de ce qu'il a fait, qu'il fait régulièrement au Japon. Et vous verrez que l'approche des Japonais est complètement différente de la nôtre. Je trouve que ça fait en fait vraiment du bien de prendre le large, alors même virtuellement c'est vrai, pour se rendre compte que nous ne sommes pas le centre du monde, que notre manière de faire n'est pas la seule, et encore moins la meilleure, et c'est bien, je pense, de s'inspirer des méthodes des autres, et que c'est une bonne chose de faire ça pour pouvoir se renouveler. Si vous appréciez le podcast, bien ce que vous pouvez faire, c'est le soutenir, évidemment, et laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Je vous dis un immense merci par avance si vous prenez le temps de faire ça. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Salut Philippe!
Alors j'espère que la voix passe bien. Je me suis mis un petit machin que j'ai pas l'habitude de porter d'habitude.
Eh ben écoute, c'est nickel.
Pour voir. Voilà,
okay, la voix super. Est top, l'image est parfaite. Ça a même été. Alors je vais juste me remonter un tout petit peu parce que je me rends compte que comme ça partage l'image en deux, ça a tendance à remonter un petit peu sans que je le veuille. Voilà, c'est parfait. Eh bien, écoute, Philippe, je suis ravi de faire ce live avec toi.
Moi également.
Bah, et puis, en même temps, on ne se connaît pas tant que ça.
Non, c'est vrai.
Parce que, ce que je disais, on s'est vu une fois, on avait bien discuté, bien sympathisé. On s'échange régulièrement sur Instagram des messages voilà, entre photographes, normal. Mais au final, on n'a pas jamais repris le temps et la peine de se recontacter et de prendre le temps de discuter. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, c'est avec tout le monde, c'est en live, donc du coup c'est un exercice qui est un peu particulier, oui. Mais ça va être intéressant. Alors, je sais pas, juste, bon, on va quand même aborder le côté un petit peu interview, alors c'en est pas un non plus, mais juste te présenter et puis savoir ce que tu fais, qui tu es, et voilà.
Bien, 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 donc moi aujourd'hui j'ai basculé en fait, ça peut être intéressant pour les gens qui suivent, j'ai basculé d'une activité très traditionnelle, très... je dirais, cadre dans une grande entreprise française vers une activité photographique. Et ça fait maintenant 2 ans que c'est fait. Donc c'est compliqué, ça gagne pas beaucoup d'argent. Heureusement qu'il y a un peu de réserve, autrement je serais à la rue. Mais à part ça, tout va bien. Non, c'est la prise de conscience à un moment donné qu'il faut assumer ses choix jusqu'au bout. Mais il faut aussi pouvoir le faire physiquement. Et comment dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient... basculer sur une activité complètement différente de celle qu'ils ont aujourd'hui et qui ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire ils ont toutes les envies du monde, mais ils ont encore des charges. J'ai vu des gens, même à côté de moi, disaient « Ah la vache, ah, c'est vachement bien ce que tu vas faire ». Ils étaient entre guillemets envieux, mais sincèrement, ils ne pouvaient pas parce qu'ils ont encore des enfants en charge, parce qu'ils ont encore un crédit à payer, parce que, enfin, des tas de bonnes raisons ou mauvaises raisons, ça dépend de quel point de vue on se place, mais... Voilà, c'était pas possible. Donc voilà un petit peu pour donner le ton. Après, la photo, c'est une vieille histoire, très très vieille histoire en fait, puisque j'ai eu un premier boîtier, on va dire réflexe à 17 ans. C'était du film, très clairement, donc c'était des
argentique,
de photos.
Argentique, donc.
Voilà.
Tu comptais le nombre de poses, 36 poses.
Oui, ouais, exactement.
Bah, je pense que maintenant, y a les jeunes qui nous écoutent ne savent même pas ce terme de 36 poses, tu vois, ça n'existe plus. Hein.
Ça, ouais, si, tu peux en trouver, mais bon,
trouver,
36
mais
poses, ouais. Effectivement, de temps en temps, je suis affolé par le nombre d'images que je peux faire une journée.
Exact, exact.
Une journée, tu peux faire 500 images, voire 1000 images.
Ouais,
et si
ouais.
Je devais, je me dis, ça fait combien de petites boîtes? C'est juste pas possible.
Et le coût.
Et le coût, bien sûr, ouais, on se rend pas absolument pas compte. On trouve que les boîtiers sont chers, mais par rapport à la pellicule et au film, c'est rien du tout.
Ceci dit, je coupe un tout petit peu, mais
On n'a plus aussi ce plaisir de l'attente, de la photographie développée que tu vas aller chercher chez le. Moi, j'ai connu ça quand même, hein, je suis pas si vieux, mais j'ai connu la prise de vue, mais c'était en 2000, je me rappelle avoir fait une sortie, un séjour à Paris en famille, et j'avais un petit compact, donc pas numérique, argentique, et j'avais pris du coup peut-être 36 photos, voilà, 36 photos. Donc tu le déposes, et c'est ça. À l'époque, tu le déposais chez ton, chez le photographe qui avait pignon sur rue. Tu le déposais ça. T'attendais quoi? 5, 6, 7 jours, ça dépendait. Enfin bon, j'ai plus l'ordre de grandeur du truc, mais t'attendais plusieurs jours en tout cas. Et t'allais chercher tes photos. Et le moment où tu ouvrais la petite enveloppe à prendre tes photos. Ben ça, alors c'est vrai que tu découvres les photos que tu as prises dans le boîtier numérique, tu les as dans l'instantané, mais ce moment où tu découvres et tu vois les photos en papier, c'est ça aussi qui manque peut-être. Franchement, c'est la découverte physique de tes photos. Tu l'as plus, ça. Tu l'as plus.
Ouais, c'est vrai. Alors, moi, j'ai pas trop connu la découverte papier parce que je faisais de la diapo. Ça coûtait un petit peu moins cher, t'avais que le développement et pas le tirage à payer. Par contre, ça m'a valu quelques très mauvaises surprises, problèmes d'expo et choses comme ça.
C'est ça.
Quand t'es planté, quoi. Tu découvres à la fin. Ouais. Donc ça, c'est des choses absolument intéressantes. Mais bon, à la limite, si t'as un peu de chance, t'as fait qu'une seule pellicule comme ça.
Exact.
Donc ça, c'est bien. Et puis, comment dire, voilà. Donc, pour terminer un peu la présentation, j'ai commencé par de la photo de nature. J'ai fait des sports mécaniques à une époque où c'était encore peu hot-sim d'être sur les côtés de circuit et de faire des photos sympas.
Donc tu pratiquais, tu pilotais, quoi.
Non, je faisais
les
photos.
Les photos.
Okay. Ouais, j'étais sur les sports mécaniques, style Formule 1, des choses comme ça. Donc, Formule 1, c'est ça si j'avais pratiqué.
Le truc qui passe à la télé, quoi.
Le truc qui passe à la télé, mais c'était une autre ambiance. Hein. On parle d'il y a vraiment très longtemps.
Okay.
Donc, ça permet. À l'époque, on n'était pas si nombreux à faire de la photo autour des circuits. Donc, ça permet.
Alors, attends, mais avec des pellicules de 36 poses,
Sur un week-end.
Il fallait quand même avoir le doigt léger, quoi. Quand même.
Oui, il faut avoir le doigt léger. Tu fais 25 pellicules sur le week-end pour un amateur.
35 pellicules.
Ah ouais. 20, 35, ouais, tout à fait.
Quand même.
Oui, parce que tu as beaucoup de loupés. À l'époque, il faut imaginer, il n'y a pas d'autofocus.
Ouais, c'est vraiment notre époque. Ouais.
C'est des objets qui vont relativement vite.
Ouais,
voilà,
ouais.
Même à l'époque. Voilà, donc de face, ça va à peu près. De côté, il faut faire des filets. Bah, des filets, pour ceux qui ont déjà expérimenté ce genre de choses, ils savent que y a pas mal de réussite, mais il y a aussi pas mal de loupés.
Attends, tu dis de face, ça allait à peu près. J'aurais peut-être plutôt vu l'inverse. C'est-à-dire que la voiture arrive de face, elle arrive très vite.
Oui.
Ah ben, faut faire le point très vite, toi. Comment tu gères ça?
Non, tu fais un pré-réglage de ton
point. Un pré-réglage et tu attends qu'elle passe à l'endroit où ça va être.
Exactement.
Quoi.
Et ensuite, d'accord. Avec une vitesse élevée, ça va bien se passer.
Ça passe, voilà. D'accord. Okay. Ouais.
Voilà. C'est la seule méthode en réalité. Du moins, à cette époque-là, aujourd'hui, t'acquiers le véhicule un petit peu plus loin, l'autofocus va faire le boulot et ça va très
bien. Et puis, tu n'as plus qu'à appuyer, quoi.
Un petit peu ça. Ouais. Mais bon, faut toujours être là au bon moment, avoir des cadrages, avoir des choses, donc ça, c'est intéressant.
Donc, en tout cas, super école techniquement, j'imagine. Là, tu apprends vraiment les vraies bonnes bases solides qui te suivent toute ta vie de photographe.
Ouais, mais c'est bon, à l'époque, j'étais très limité en matériel. J'étais pauvre et jeune, comme on dit. Ou jeune et pauvre, c'est comme on veut.
Mais insouciant.
Bien sûr, exactement. Ouais. Bah, on se doute de rien à cette époque-là.
C'est ça.
C'est très bien. Et c'est très bien aussi. Moi, je vois des gens qui aujourd'hui débutent la photo animalière pour revenir sur mon focus principal. Ils débutent avec un matériel que je ne possédais absolument pas à mes débuts. Et c'est super d'un côté parce que bon, ils ont tout de suite de bons résultats. Ils ont tout de suite des choses. Ils arrivent à sortir des choses vraiment très très bien. Mmh. Je suis même parfois épaté, sincèrement. Et d'un autre côté, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça donnerait sur leur filet, mon matos, pour voir un peu comment ils se dérouillent.
De l'époque.
C'est le côté, pour voir.
Tu l'as toujours, tiens, t'as gardé un peu tout ça, là.
J'ai gardé. Ouais. C'est vraiment collection, c'est dans un sac, ça sort pas beaucoup, ça prend pas la poussière parce que c'est protégé.
Ouais.
Mais ça m'est arrivé à une époque avec quelqu'un que tu connais bien, Jean-Christophe Dichamp.
Ah bah bien sûr. Alors ceux qui ne savent pas, Jean-Christophe Dichamp, de Nikon Passion, super blogueur, super photographe, qui a un compte Instagram, donc Jean-Christophe Dichamp, JC Dichamp, allez suivre, c'est intéressant. Ouais.
Et on avait fait un challenge, c'était il y a longtemps, il nous avait demandé de reprendre notre appareil argentique et de venir faire en groupe une petite sortie photo dans Paris. Et donc, c'est la dernière fois à peu près que j'ai dû utiliser mon matériel argentique.
Argentique, ouais.
Ça doit faire une dizaine d'années maintenant. Voilà. Ouais. Facile.
Ok. Et donc, du coup, mais malgré cette passion qui t'anime depuis le début, depuis tes 17 ans, quoi, et avec cette expérience de sport mécanique et certainement d'autres choses, tu n'as pas eu envie ou senti le besoin de te lancer avant dans le métier, quoi, finalement. Tu as quand même longtemps cadre dans ta boîte.
Ouais, tout à fait, complètement. Ça a failli à un moment donné, notamment autour des sports mécaniques, ça a failli prendre. Et puis le magazine avec lequel je m'étais engagé a malheureusement fait faillite. Il visait le très haut de gamme.
Ouais.
Et c'était des Anglais qui s'installaient en France. Et ils ont fait 3 numéros et après ça a été terminé.
Ok. Voilà. Okay.
Donc, bon, c'est des choses comme ça. Et puis, comment dire, il y a des moments où tu hésites toujours, quoi. Je veux dire, comment je mange, entre guillemets, ça paraît bête, mais c'est vraiment le genre de choses qui tiennent un petit peu en respect. Ouais. Et puis, c'est la mise en ménage. Et puis, c'est l'histoire d'une vie, en fait.
C'est pas une décision qui se prend tout seul, t'es pas tout seul, quoi.
Non, exactement. Donc, c'est pas tout seul.
T'impliques toute une famille, finalement. Hein, donc,
tout à fait.
Ouais, c'est sûr.
Donc ça, c'est pas évident. Et donc, bon, à partir de là, on fait des choix. Ça n'a pas empêché de continuer à pratiquer la photo, de basculer, je ne vais pas dire brutalement, mais en fait, j'ai quitté un peu le sport mécanique parce que pour un amateur, ça devenait complètement impossible d'accéder au bord de circuit, au stand, quoi que ce soit.
C'est-à-dire, si tu n'as pas le truc presse, machin, c'était pas employé par un magazine, un éditeur,
ça devient très très vite très décevant. Tu fais que les trucs très moyens et c'est pas enthousiasmant. Donc, je suis retourné à mes premières amours, c'est-à-dire photographier les grenouilles et les papillons. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé, hein, photo animalière. Comme beaucoup, je crois. Hein. C'est des sujets pas trop farouches, qui bougent pas trop non plus. Mais,
C'est vrai.
Mais néanmoins, quand je regarde ce que je faisais à l'époque et aujourd'hui ce que font les gens, notamment avec les papillons en macro, des choses comme ça, ça n'a strictement rien à voir. Je veux dire, je n'oserais jamais vous montrer, ne serait-ce qu'un scan de
gâteau. Pour toi, ce qui a changé, c'est le basculement. Alors moi, j'avais interviewé, pour ma série d'interviews de mon podcast, j'ai oublié le nom tout de suite, mais un photographe est que je respecte énormément, qui faisait des photographies très belles, mais vraiment très typées naturalistes. Et de l'époque, à la limite, tu vois, de l'époque des années 80, 90, début 2000. Mais c'est vrai que c'est très beau. Enfin, non, c'est pas très beau. C'est très bien fait, mais je trouve qu'il manque la magie quelque part, la magie de la beauté de l'image, tu vois. Je sais pas, la belle lumière, le bon comportement, le flou magnifique.
Complètement.
Des trucs un peu osés. Ça n'existait pas. En tout cas, à l'époque, ça se faisait pas. Certainement par manque, peut-être, de possibilités d'essais, tu vois. D'essais-erreurs, quoi. C'est peut-être ça aussi qui manquait.
Mais pas seulement ça. Je pense qu'il y a eu un gros développement, on va dire, pour moi, ces 15 dernières années, des concours, de notoriété des concours. Ah, oui. Il y a beaucoup plus de concours.
Ouais.
Et on a commencé à avoir des choses beaucoup plus artistiques. Et les jurys des concours ont de plus en plus poussé vers cette voie. Parce que finalement, c'est un peu une expression que j'aime à apprendre vraiment très très à la légère. C'est, il y a 30 ans, tu faisais une photo de lion dans la savane, t'étais premier prix, quoi.
C'était OK, ouais.
C'était facile.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Alors, en plus, si t'avais un lion qui avait attrapé quelque chose, alors là, t'étais vraiment sûr d'être premier prix.
Ouais,
absolument. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus ça. Ça peut toujours fonctionner, hein. Ceci dit, il n'y a rien de mal à faire un lion qui se balade dans la savane et qui court après une proie. C'est toujours très intéressant. Mais simplement, le côté artistique a été largement renforcé, et ce d'autant plus, je dirais, ces 10 dernières années. C'est-à-dire aujourd'hui, une photo qui n'a pas un beau bokeh, une âme, quelque chose, ça va être très très dur pour elle de percer à travers un concours.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que tout a déjà été fait, été pris du moins. Le sujet a déjà été pris en photo. Après, tout fait, non, certainement pas. Mais je veux dire, les photos de renard, tu en as 100 000. Des photos de blaireau, tu en as 100 000. Donc, qu'est-ce que tu vas apporter de plus ? Il va bien falloir que tu te différencies, que tu apportes quelque chose en plus, soit avec une lumière, soit avec une attitude, soit avec une composition, soit avec un point de vue qui va être différent, qui va montrer quelque chose de vraiment différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc, tu vas pouvoir attirer quelqu'un. C'est un pouvoir d'attirance de ton image. Et ça, sincèrement, c'est quelque chose qui est relativement nouveau en photographie, même animalière.
Ouais. Et tu as carrément raison. Et c'est vrai que je n'avais pas trop saisi, et tu as bien fait de le dire, et ça m'en fait prendre conscience, sur l'aspect concours qui ont forcé, en tout cas, eux ont forcé, et les gens qui voulaient remporter se sont aussi, du coup, forcés aussi, eux, à chercher des choses qui n'avaient pas été faites. Donc, c'est une espèce d'émulation positive. Mais ouais, je pense aussi que le grand public, et donc aussi les photographes, sont de plus en plus éduqués à l'image. Ça vient mais de tout type d'image. Évidemment, on peut penser au musée, bien sûr, mais même les magazines, tu vois, les pubs des magazines sont, je regarde pas forcément tout ça tout le temps, mais il y a une recherche esthétique maintenant de plus en plus dans tout type de support communication lié à l'image. Je regarde pas non plus trop de séries, mais d'après ce que je sais, mon épouse en regarde beaucoup, mais je vois quand même passer des pubs et tout ça, et on sent que l'aspect visuel est vraiment maintenant hyper est à son compte, quoi. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment à faire tout le temps la belle image dans tout type de support visuel, et clairement ceux qui arrivent à la photographie maintenant, donc les jeunes et même ceux qui sont moins jeunes, peu importe à la limite, ont reçu cette éducation, une espèce en fond, tu vois, en filigrane, sans se rendre compte. Et nous on est de plus en plus sensibles à la beauté grâce à toutes ces images qui arrivent dans tous les sens, mais qui sont toujours très bien faites, très bien léchées et bien réalisées. Ça va compter aussi, je pense, ça.
Bien sûr, il y a une envie du beau quelque part. C'est là-dessus d'ailleurs que, je vais pas dire on joue, mais quelque part c'est ça. Je veux dire, quand tu vois un petit peu les collectifs qui s'engagent pour la protection de la biodiversité, qui ne te montrent pas une image bête, entre guillemets, bête et méchante de juste un animal. Ils vont le magnifier. Soit le magnifier, soit au contraire le mettre dans une situation où on le voit, où on le perçoit très clairement en danger. Le but, c'est d'attirer les gens, d'attirer l'attention des gens. Alors, tu as deux méthodes. Soit les mettre dans une position où ils ne sont vraiment pas à leur avantage, où on sent le danger qu'ils peuvent subir. Soit au contraire, on les magnifie, on les rend excessivement beaux. Et c'est naturel parce que ça nous permet de dire, d'avoir un discours, regardez comme la nature est belle, protégez-la. Et c'est un petit peu mon leitmotiv, c'est tant que les gens n'ont pas conscience de ce qui est beau, ils vont avoir beaucoup, et que ça existe surtout, ils vont avoir beaucoup de mal à s'engager pour le protéger.
Ouais. C'est-à-dire que la belle photo va faire que les gens vont s'intéresser à telle ou telle espèce, et quand on s'intéresse plus, on connaît un peu plus, et quand on connaît, on respecte.
Normalement, oui. C'est un mécanisme logique. Je veux dire, si tu ignores même l'existence de quelque chose, comment vas-tu pouvoir t'engager sur sa protection ou même quoi que ce soit? Tu ne sais même pas que ça existe. Voilà. Donc, à partir de là, impossible.
Alors, tiens, pour toi, Philippe, en ce moment, tu t'es sur quel type de photographie, quel environnement ou quelle espèce qui te tient à cœur et que tu aurais envie, pour le coup, avec ce que tu produis, de mettre un peu plus en avant pour que les gens connaissent et qu'ils respectent. Ce serait quoi en ce moment ?
Alors, en ce moment, je travaille sur deux projets. J'ai un projet sur des macaques en Indonésie.
D'accord.
Donc, c'est une espèce qui, à un moment donné, a été très médiatisée, qui l'est naturellement plus du tout maintenant, et pourtant qui devrait mériter notre attention, puisqu'elle est classifiée comme critiquement en danger par l'UICN.
D'accord.
Hein, donc, c'est vraiment sur la liste rouge. Et également sur une pratique qui a beaucoup lieu en Asie, qui est ce qu'on appelle les pets cafés. Alors, j'explique un tout petit peu. Ce sont des cafés dans lesquels tu peux avoir des animaux normalement domestiques, c'est-à-dire tu peux caresser des chats, des lapins, des chiens, des choses comme ça. Et on trouve malheureusement dans toute l'Asie et notamment au Japon des pets cafés dans lesquels tu peux trouver des chouettes, donc d'accord, certaines espèces qui sont listées en liste rouge.
D'accord.
Tu peux trouver des animaux un petit peu comme ça, tu peux trouver du pangolin.
J'imagine que ces animaux-là, on va les chercher à l'état sauvage, on les ramène, dans les pets cafés comme tu dis, juste pour le plaisir très égoïste de l'homme, et c'est très touristique en plus, je pense. Hein.
Alors, très touristique, pour en avoir fréquenté, il y a assez peu, comment dire, on va dire, d'Européens. Hein, il y a assez peu de gens type caucasien. Bon, maintenant, on est au Japon, c'est pas super connu.
Ouais.
Mais il y a énormément de gens qui viennent.
D'accord.
Je suis allé dans un pet café, il faut réserver, et ça dure une heure, et ça dure tout l'après-midi. Et toutes les heures, il y a un maximum, ça doit être 20 personnes.
Voilà. D'accord. Alors, je pense juste à un truc. Moi, j'ai tendance à me dire dans ma tête, ah, c'est nul ce qu'ils font, c'est horrible, c'est dégueulasse. En France, ça se passerait pas comme ça. Et en même temps, je me dis dans la seconde qui suit, je me dis, en France, on fait des choses peut-être pas ça, mais on fait d'autres choses qui sont tout aussi dégueulasses. Et je pense par exemple à des pratiques de chasse d'un autre âge et à la vénerie, par exemple, pour citer ça ou d'autres. Mais voilà, c'est une petite parenthèse. On n'est pas meilleurs, quoi. Voilà, on n'est pas meilleurs que.
Non, il n'y a pas, pas à juger, je dirais.
Voilà, c'est ça.
Ça correspond à un besoin
culturel.
Culturel, je sais pas. Il y a au Japon, il y a une véritable vénération par rapport aux chouettes et hibou, ça c'est sûr.
Ok.
Mais il n'y a pas que ça. J'y suis pas allé, mais j'ai trouvé une publicité pour un pet café où il y a des pingouins, enfin des manchots en fait. Pressing en français, c'est manchots.
Ouais. Ouais.
Il y a trois malheureux manchots. Alors ceux-là, ils sont pas en danger du tout, c'est manchots papou.
Ouais, ouais.
Mais bon, ça fait quand même bizarre, quoi.
Ouais, ouais.
D'avoir un peu un bord de glace.
Donc, toi, du coup, tu, quelque part, tu as envie de dénoncer cette pratique-là. Mais sous quel angle tu penses être le plus efficace? Est-ce qu'il y a une façon de faire, en gros, hein? Je pense au paquet de cigarettes. C'est soit tu dis, en gros, ne fumez pas, et si vous ne fumez pas, vous serez en bonne santé et vous pourrez faire plein de choses, ce sera formidable. Ou alors tu prends l'inverse et tu montres des images absolument épouvantables sur le paquet pour faire peur aux gens. Toi, tu voudrais aborder la chose comment, en fait, en tant que photographe, en tant qu'artiste qui a envie de faire parler, de parler à la société, c'est quoi? C'est soit montrer la beauté de l'animal dans son environnement pour dire, en gros, le message sous-jacent, c'est de dire, bah, laissez-le là où il est parce qu'il est très beau et voilà, il ne faut pas le toucher. Ou alors, aller au cœur du terrain, au cœur du problème, et de montrer par des photographies, quelque part, la détresse de l'animal avec des images beaucoup plus dures. Toi, en tant qu'artiste, comment tu te sens le plus à même de toucher les gens?
Moi, aujourd'hui, je suis plus sur le premier mode, celui que tu décris, parce que le deuxième mode est aussi, pour certains endroits sur la planète, on va dire, plus dangereux. C'est-à-dire, soit les gens ne te laissent pas forcément prendre des photos, soit le simple fait de les publier peut te créer de véritables problèmes.
Ouais.
Il faut choisir entre je peux continuer à aller dans ce pays et faire des photos, ou je ne vais plus pouvoir aller dans ce pays et faire des photos. Je fais très attention notamment à des pays comme l'Indonésie, des pays comme la Chine, et même des pays comme le Japon. Il faut faire très attention à ce que l'on dit, parce que finalement, après, tu es connu et reconnu.
Et tu n'y retournes pas, quoi.
Et si tu es persona non grata dans ce pays-là, ma foi, c'est fini, quoi.
D'accord.
Ce que tu as mis en place, ça ne va durer, ça va rester éphémère.
Ouais, ouais.
C'est aussi une chose qu'il faut percevoir, c'est que c'est forcément un travail de fond. C'est-à-dire que tu le fais à un moment donné, et ensuite, il va falloir continuer à le faire, répéter. Et c'est un travail de longue haleine. Tu ne peux pas dire, tiens, je fais un article, ça y est, c'est fini, je passe à autre chose. Ouais, tu peux passer à autre chose, il n'y a pas de problème. Mais quand tu regardes bien, les actions qui fonctionnent, c'est celles qui s'inscrivent dans la durée. Il faut en faire un, il faut en faire deux, il faut faire ça. Il faut trouver des relais, ce n'est pas évident, parce que les médias, ont, à un moment donné, ils ont une conscience, ils ont envie de relayer ce que tu proposes. Il y a des moments où ça les intéresse juste pas, parce que l'actualité, parce qu'ils ont autre chose peut-être de plus beau, entre guillemets, à montrer.
Ou de plus vendeur.
Plus de vendeur, exactement.
Ouais,
ouais. Et là, voilà, c'est très compliqué de se
mettre. D'accord. D'accord. Donc toi, tu photographies dans l'environnement pour montrer la beauté de l'animal. Tu disais en début d'interview, enfin, c'est pas une interview, en début de discussion, que depuis 2 ans, c'était ton activité. Alors justement, tiens, concrètement, comment ça se... passe pour toi. Tu fais quoi? Tu vends des images, tu accueilles des gens, tu fais des stages. Comment tu fais pour pouvoir vivre du monde de la photographie?
Alors, aujourd'hui, très clairement, la première année était quasiment blanche.
Ouais.
Cette année était bien partie, mais bon, un petit peu...
Mais pour plein de monde. Hein,
pour plein de monde.
C'est pas très sûr, mais c'est pour plein de monde.
Ça va être un petit peu plus délicat.
Ouais.
L'activité qui peut rapporter vraiment de l'argent, à part le fait que les photos sont soit en agence et des choses comme ça, les articles peuvent rapporter un petit peu d'argent, mais c'est pas ça qui va faire bouillir la marmite, comme on dit. Ouais, ce qui va rapporter de l'argent, ce sont les voyages, effectivement.
Okay.
Je monte en partenariat avec une agence de voyage. Donc, en fait, la commercialisation, c'est pas moi qui la réalise.
D'accord.
Et comme beaucoup de photographes, je dirais presque malheureusement, qui avant ne faisaient que vendre des photos, sont passés dans ce mode de rémunération-là, parce que c'est le seul moyen de gagner décemment sa vie.
Donc, le mode d'accompagner sur le terrain des gens qui veulent vivre une expérience.
Exactement.
D'accord, d'accord. Donc, toi, tu accompagnes en termes... T'es quoi ? T'es plus guide local et en plus avec la casquette de photographe, ou t'es vraiment que photographe, en fait ?
Non, je fais également le guide local. J'ai pas besoin, dans les pays dans lesquels je me rends, je n'ai pas besoin de tiers, entre guillemets.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire, typiquement, le Japon, c'est moi qui conduis la voiture, c'est moi qui guide, j'ai pas besoin d'une agence tierce ou quoi que ce soit.
D'accord.
C'est pareil en Chine, à la limite que j'ai pas le droit de conduire en Chine, donc je suis obligé de prendre un chauffeur et un guide qui me sert à rien.
Le permis français ne va pas pour la Chine ? C'est pas le bon ?
Non, non. J'ai vécu en Chine, j'ai vécu 5 ans en Chine.
D'accord.
Donc, je pouvais passer le permis là-bas, mais vu comme ils conduisent, j'avais pas trop envie. Déjà, d'une part.
C'est Italie puissance 10, c'est quoi en fait ?
Ouais, c'est un doux mélange d'inconscience et puis de non savoir-faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens passent le permis juste en passant le code. Il n'y a pas de pratique.
Ouais. Ah ouais.
Donc d'accord. Ça peut conduire. Tant que tu es en ville, bah, ça va. De toute manière, c'était le
moment de
bouchonner. Ça va pas vite, c'est pas dangereux. Mais dès qu'on s'éloigne un peu et que les gens prennent les autoroutes, il y a énormément de camions sur les autoroutes qui font strictement n'importe quoi. Donc ça peut s'avérer excessivement dangereux.
Il
faut faire attention à ça. Voilà. Donc à partir de là, il faut raison garder. Je préfère passer par une agence, etc. etc. Et autrement,
d'accord.
Le permis français ne fonctionne pas, le permis belge fonctionne. On a un accord normalement entre la Chine et la France de réciprocité, puisque les Chinois ont le droit de conduire une voiture de location en France, depuis 2016, février 2016, mais on n'a toujours pas eu le décret d'application en Chine. Donc,
d'accord.
Pour l'instant, il est hors de question pour moi de conduire là-bas. Voilà.
Ouais,
et puis, de toute manière, je n'aurais pas vraiment envie. C'est mieux pour la sécurité.
Ok. Voilà. Par rapport au confinement, comment toi... Tu nous l'as dit, tu es un fervent, enfin tu es fou, tu adores les voyages, tu aimes ça, tu photographies sur place, ça fait partie de ton travail justement. Mais là, tu l'as dit aussi, c'est mort quoi. Et alors toi, en tant que photographe, en tant que passionné de photo et du geste photographique, comment tu gères ça ? En gros, tu fais plus rien ou alors tu t'es adapté et puis tu fais autre chose ?
Non, je fais plein d'autres choses en fait. J'en profite pour trier ce que j'ai pas trié depuis longtemps. C'est-à-dire, j'ai plein de photos qui sont là sur le disque dur. C'est pas qu'elles sont pas triées, mais il faut éliminer. C'est-à-dire, c'est un geste qui est toujours difficile, s'appuyer sur le bouton delete. J'encourage tout le monde à le faire.
C'est vrai.
À un moment donné, tu ramènes 3000, 5000, 10000 photos.
Mm-hmm.
Et tu fais ton petit tri, tu as tes 100, ton top 100 si tu veux. Puis ensuite, les autres, souvent, elles restent là parce que tu sais pas, t'hésites.
Exact.
Et puis là, faut y aller. Il faut taper dans le dur, tu révises un petit peu parce que parfois tu peux retrouver quelques pépites, ça serait dommage de les effacer.
Ouais.
Tu notes et à un moment donné, tout ce qui n'a pas la note minimale que tu as décidée, ouf, poubelle. Ça libère les disques durs, ça t'évite de réinvestir d'une part et puis d'autre part, ça te permet également de redécouvrir des choses. Donc ça, c'est intéressant. C'est un premier job que j'ai entamé, donc ça,
d'accord,
c'est intéressant.
D'accord.
Autre job que j'ai entamé, c'est un petit peu de faire de la photo depuis le balcon.
Alors là, tu vois, justement, Caroline, très bas, 464, salut Caroline, qui nous décrit, il fait de sublimes clichés depuis son balcon.
Merci Caroline. Ouais, j'essaye, mais je commence à être limité parce que j'ai pas 150 espèces à ma disposition, là, 3, 4, 5.
Ouais.
Et puis mes angles de tir sont somme toute limités.
Oui.
Voilà.
Oui.
Ça forcément. Après, j'ai un petit bout de jardin de copropriété dans lequel je peux aller essayer de faire un peu de macro.
Ouais.
Mais je dois dire qu'il n'y a pas énormément d'insectes.
Est-ce que tu as remarqué quand même que moi je trouve. Alors, est-ce que c'est le fait de lire à force, donc du coup ton esprit un peu biaisé, mais il me semble que les oiseaux chantent plus. Et, alors, franchement, je vais dire plus fort, mais comme il y a moins. Alors, moi, je ne suis pas dans un environnement très urbain où il y a beaucoup de bruit, de circulation, il y a quand même des voitures qui passent régulièrement, mais il me semble que les oiseaux sont plus nombreux et chantent plus fort. Est-ce que toi, tu as remarqué ça ou pas ?
Alors. Moi, j'ai un petit avantage, je dirais, je suis en retrait par rapport à une grande avenue.
Ouais,
donc, j'ai une grande cour intérieure et un bâtiment qui fait écran devant. Donc, je suis au fond de la cour, comme on dit. Donc, je n'ai pas la sensation que ça chante plus fort. Disons qu'on les entend mieux. Ça, oui, c'est sûr, parce qu'il y a un bruit de fond qui a disparu.
C'est ça, en fait.
Très clairement.
Bien sûr.
Il y a un bruit de fond qui a disparu.
Ouais.
Autrement, j'ai des pics qui jacassent. J'ai du corbeau qui croasse et les ramiers qui recoulent tout ce qu'ils peuvent. Ça, ouais, ça, c'est la période, il n'y a pas de problème. De temps en temps, j'ai les mésanges qui viennent dans un boulot qui est juste en face.
D'accord.
Et je les entends bien également. Peut-être que c'est elles que j'entends plus, alors qu'avant, je les entendais peut-être un peu moins. Mais est-ce que c'est lié à la disparition du bruit de fond ou autre chose? Je ne sais
pas. Voilà. Ah voilà, c'est ça en fait. On sait pas trop. Voilà, mais il y a peut-être, il y a un peu de tout en fait. Du coup, il y a un petit peu de tout. Mais tant mieux de pouvoir voir et plus entendre ces espèces-là. Si tu veux bien, Philippe, je voudrais bien remonter un petit peu sur les. Vous lisez des commentaires, c'est super, vraiment continuer. Mais en tout cas, moi, je prends pas trop de temps de les lire. Il y avait un commentaire. Je sais plus, que je monte tout le monde plus haut, mais je vais pas le faire. Mais en tout cas, c'est Martial, je crois qu'il avait dit, par rapport à l'éthique photo, tu sais, pour pouvoir faire des belles photos, il y en a qui sont prêts à tout, en gros, quoi. Et puis, il y a eu des polémiques qui sont ressorties, d'ailleurs. Alors, il y a eu l'histoire des photographes d'Inde qui n'hésitaient pas à congeler des insectes ou des espèces pour pouvoir les mettre dans les bonnes situations, tu vois. Et même en France, on a aussi des situations de photographes qui se sont fait choper. Et tant mieux, parce que en gros, ils avaient pas de scrupules non plus à prendre des animaux a priori congelés pour les mettre dans des situations juste pas possibles. Bref, nous qui sommes photographes animaliers, on est sensibles à ça et on le voit assez rapidement, mais le grand public, en gros, va se faire avoir. Oui, ouais. Parce que c'est pas la vraie belle photo, quoi. Et donc, du coup, il n'y a pas forcément de question derrière ça, mais... mais c'est pas une question piège, mais est-ce que toi, Philippe, t'as été pas tenté par ça, évidemment, mais est-ce que quand même, tu sais, des fois on a envie, on est un peu poussé par la belle photo, donc on a envie de déplacer l'espèce, par exemple, si on peut, je pense, je parle en macro. Voilà, jusqu'où toi, tu te fixes ta limite par rapport à cette espèce d'éthique où il y a un écrit, mais voilà, on sait
pas. Je vois ce que tu veux dire. Alors, faut que ça soit clair. Personnellement. Je me rends compte que parfois je vais trop près, donc je peux déranger. Ça m'est déjà arrivé. Et j'essaye de le faire de moins en moins. C'est pour ça aussi également que j'utilise des très longs focales, parce que ça veut dire être moins près et ça veut dire moins de dérangement pour la faune.
Ouais.
Donc ça c'est une chose. Ça c'est aussi quelque chose. Aujourd'hui, je photographie quasiment plus en France.
Mm-hmm.
Parce que je m'y sens pas à l'aise, parce que les endroits que je fréquentais sont devenus trop fréquentés, justement. Donc d'une part, j'observe beaucoup moins de faune, et puis d'autre part, je peux tomber sur des indélicats et des gens qui vont provoquer le dérangement justement pour pas que je fasse la photo. Ça,
ouais.
C'est des choses que j'ai déjà constatées.
Ah ouais, d'accord.
On arrive à ce point là.
D'accord.
Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Maintenant, il y a des endroits où visiblement ça se passe beaucoup mieux, ne serait-ce que quand je vois des images qui sont sorties par certains, et ça se passe en France, donc ça veut dire qu'il y a des endroits où il est encore tout à fait possible de pratiquer une photo nature tranquille. Voilà. Beaucoup moins là où j'ai l'habitude de me rendre. Ça, c'est un problème. Autrement, la limite, très clairement, c'est le dérangement. Je ne veux pas déranger, je ne veux pas mettre en danger quoi que ce soit. Il y a des endroits où c'est. Il n'y a pas de dérangement parce que les animaux sont habitués, il y a des choses comme ça. Par exemple, au Japon, effectivement, si tu vas photographier les grues du Japon, il n'y a pas de dérangement en hiver.
D'accord.
Par contre, il peut y avoir du dérangement au printemps, en été. Elles sont beaucoup plus farouches, elles n'ont pas l'habitude de voir du monde. Et là, il faut être extrêmement précautionneux.
Ouais,
il y a également des endroits où elles sont, entre guillemets, plus sauvages. Et là, dans ce cas-là, c'est pareil. Si tu ne veux pas déranger, il faut prendre les précautions habituelles, c'est-à-dire de se dissimuler. Simuler, ne pas être en groupe. Donc c'est pour ça que je n'emmène pas les gens sur ces lieux-là, parce que je sais que ça ne va pas fonctionner, tout simplement, parce qu'on va forcément faire du dérangement. Voilà, c'est ce genre de choses. Hein. Moi, la limite, pour moi, se fait au niveau du dérangement.
Ouais.
Après, la macro est encore un autre problème, parce que la macro, tu as la conscience.
On ne sait pas...
Voilà.
Comment... comment déranger, pas déranger, quoi. Forcément.
C'est quoi déranger? Est-ce que déranger, si tu prends un scarabée, tu dis, bah, écoute, Coco,
tu te déplaces de 3 cm pour mettre, voilà.
Voilà. Et c'est, bon. Si tu viens là, tu vas être vachement mieux sur la photo. Est-ce qu'on l'a dérangé? Oui, quelque part, forcément.
Mais c'est pas un dérangement qui va mettre en péril l'individu, quoi, a priori.
A priori, ça va pas le mettre en péril. Donc, bon, là, il faut être mitigé. Après, effectivement, les gens qui passent les papillons au congélateur, ne serait-ce qu'au frigo, ralentir dans leur attitude, etc. Bon, bah voilà.
C'est pas possible. Alors qu'il suffit de se lever très tôt le matin, à l'arroser.
Ils sont pas de rosés, exactement.
Ils vont pas plus voler que si tu mettais dans le congèle, quoi. Mais tu vois, je pense à un photographe que moi, j'aime particulièrement, vraiment. Sébastien Riou, qui fait de la photo macro, et pas que, hein, d'ailleurs, mais des photos.
Que je connais.
Il a ce bagage artistique. Il vient d'abord du monde des beaux-arts, et ça, forcément, ça influence énormément sa capacité à produire des belles photos. Et donc, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai fait un stage avec lui. Et c'est vrai qu'il n'hésite pas à déplacer les sujets qu'il va photographier. Je pense à un sujet. On avait trouvé une petite grenouille, je sais plus l'espèce, une petite grenouille. On l'a prise avec toutes les précautions du monde, hein, sans les mains. On l'avait prise avec. Il avait pris des gants, il me semble. Bref, on avait vraiment pris toutes les précautions et on l'avait déplacé de 2 pas pour la mettre sur une pierre qui était là, quoi. Tu vois, donc on l'a mis sur une pierre. Et ce qui fait que effectivement, l'environnement était juste, excessivement différent et bien, bien plus joli, bien plus beau. Et au final, la photographie, elle est magnifique. Et cet espace-là de grenouille, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, voilà. On l'a vraiment mise en valeur. En gros, c'est exactement comme si on prenait une star et qu'elle était dans la foule et que la star, on la prend et qu'on la met sur un podium, tu vois, avec les flashs et tout ça, et qu'elle est juste magnifique et que derrière, elle est mise en valeur. Et là, c'était pareil. Et je pense que quand on arrive à trouver le bon équilibre entre déranger un peu, certes, mais juste ce qu'il faut pour pas mettre en péril le sujet. Ça fait débat, hein, et je sais bien que ça fait toujours débat, ça, mais alors que le but qui est sain, je pense, de montrer la beauté de l'espèce et de la faire connaître, bah, je pense que ça passe, quoi. À mon avis, ça passe. Il faut juste trouver le bon équilibre.
C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que. Ouais. À partir de quand tu déranges, à partir de quand tu déranges pas, la grenouille, effectivement, on aurait tendance à dire, bon, c'est parce qu'elle a bougé de 2 pas qu'elle est en danger.
Oui.
Maintenant, ça a été pris avec des gants, etc., etc.
Mais en même temps, on n'est pas dans son monde. On n'est pas dans son monde.
Voilà. On ne sait pas. La réalité, c'est qu'on ne sait pas.
Ouais.
C'est encore différent les batraciens. C'est encore différent. Il y a les insectes, je dirais, purs. Et puis il y a le batracien. L'insecte, vraiment. Parce qu'on a notre propre classification, en fait. On va placer d'abord le mammifère, ensuite peut-être les amphibiens, et ensuite peut-être, en dernier lieu, l'insecte, je veux dire, n'a pas tué une mouche dans sa vie.
Mais c'est ça.
Ou une fourmi. Ils ont le droit de vivre, hein, comme tout le monde. Pourquoi la tuer
On pourrait en parler pendant des heures. Et justement, Philippe, en fait, ça fait 30... Je regarde le temps, hein, quasiment chronomètre. Non, mais je regarde particulièrement parce qu'en fait, je suis à l'étage. Les enfants vont pas tarder à revenir et quand ils seront là, ça sera fini clairement. Donc je préfère arrêter maintenant tranquillement, tout doucement, plutôt que de vite finir et que je sois dérangé. Écoute, merci Philippe, c'était super. Déjà parce que on a pu parler de plein de choses, de photos, c'était génial. Et puis voilà, donc de faire encore un peu plus connaissance. Et j'ai vu les commentaires, c'était super. Merci à tous d'avoir joué le jeu.
Merci à tous.
C'était top d'être venu exactement. Philippe, pour te suivre, c'est ton compte Instagram le plus simple. Alors, ils l'ont sous les yeux, mais dis-le le nom pour être certain.
Phil Ricordel, @PhilRicordel, @PhilRicordel. Voilà. Tout simplement.
Merci beaucoup, Philippe. Merci,
Régis.
Et bonne journée.
Bonne fin de journée.
Merci, ciao.
Merci à vous d'avoir écouté cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Si l'application sur laquelle vous écoutez cet épisode-là permet de laisser un commentaire ou une notation, ce qui serait vraiment sympa, ce qui me ferait très plaisir, c'est que vous laissiez justement une note. Évidemment, le mieux, c'est de mettre une bonne note, 5 étoiles, ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de faire connaître le podcast et de faire en sorte que le plus de monde possible puisse découvrir ce podcast et en profiter. Un immense merci à vous si vous faites ça.